Très content de se retrouver ensemble. Peut-être certains se souviennent du sujet que j'avais abordé quand j'étais à Châtenois avec vous. Pour ceux qui étaient là, hein, tout le monde n'était pas là. Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est que quand on sort d'un culte, on a toujours des idées qui restent dans nos têtes et on se dit « Ah, ça, ça m'a touché, ça !» Et après, le dimanche, c'est lundi. Je ne vais pas plus loin, n'est-ce pas?
Tu avais parlé de prier selon la volonté de Dieu.
Merci beaucoup. Très bien. Tout à fait. On avait parlé de la prière et qu'une des choses qui était essentielle dans la prière, c'était effectivement de pouvoir demander au Seigneur de connaître sa volonté et ainsi on pouvait prier selon la volonté de Dieu. Et je vous avais montré aussi une frise historique. Et dans cette frise où on voyait un peu ce qui s'est produit avec le peuple hébreu, le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, et on voyait qu'en particulier, quand l'homme insistait dans la prière pour avoir quelque chose de particulier que Dieu ne voulait pas, Dieu finissait par accorder. Et on voit l'histoire du roi Saül. Et puis on voit que tous les rois qui ont suivi, sauf quelques exemples rares, les rois qui ont suivi, c'était franchement pas triste du tout, n'est-ce pas? Et puis on va voir une chose, on va faire une découverte qui est assez extraordinaire, c'est que dans toute cette période très difficile de la royauté, il va se passer quelque chose, donc à la fin il va se passer quelque chose de formidable, c'est que Dieu va montrer de nouveau au peuple que c'est quand même sa volonté qui va primer, et sa volonté c'est Christ le roi des rois qui va venir. Vous avez voulu un roi humain, c'est pas ça qu'il fallait, et le vrai roi qui va être fonctionnel c'est Jésus. C'est intéressant de revoir l'histoire comme ça globale, et de pouvoir se laisser enseigner au travers de cela. Ce matin, j'aimerais que vous puissiez réfléchir avec moi. Donc je ne vais pas vous donner des solutions, je vais vous poser des questions. Vous ne serez pas obligé d'y répondre tout de suite. Je ne mets pas de notes, de toute façon je n'aurais pas été prof, je n'aurais pas été capable. Je suis incapable de donner une note sur un devoir, n'est-ce pas? Donc je ne vais pas vous donner un devoir. Mais j'aimerais bien qu'on réfléchisse parce que... avec vous, à deux reprises, je pense, j'ai évoqué la question des juges. Et la période des juges, on a dit, c'est une période qui est compliquée. Je ne vais pas reparler des juges en eux-mêmes, mais je vais parler donc du mot « juge », ou plutôt du verbe « juger ». C'est pourquoi on a lu ce passage dans Corinthiens, parce qu'en fait, juger, c'est difficile. Le texte nous dit que nous, en tant que chrétiens, on juge de tout et personne ne nous juge, etc. Juger. Alors, je vais vous raconter dans ma prédication quelques petits exemples aussi, des exemples humoristiques, d'autres un peu plus dramatiques, pour bien montrer que, en fait, juger n'est pas la chose la plus simple. Et que juger, on le fait aussi... même si des fois on sait très bien qu'on ne devrait pas le faire. On juge des situations, on juge des cas, on juge des gens qu'on ne connaît même pas, enfin, etc. Juger est un verbe difficile. Et je dois avouer que, même avec ma recherche biblique, je pense que je ne suis pas arrivé au bout de ma réflexion. Alors je compte sur vous. Voilà, le téléphone sonne, il va nous donner la réponse. C'est vrai. Alors, une petite histoire humoristique, qui peut-être est vraie, je ne sais pas. C'est un monsieur aux États-Unis qui cherche une voiture, il cherche à acheter une voiture. Et il a découvert une petite annonce, une belle voiture, récente, peu de kilomètres, qui est pas chère. Ça y est, elle a déjà jugé, j'ai fait la même chose.
Ça me fait penser à des trucs
Ça te fait penser, peut-être que c'est la même chose. Et le monsieur, il hésite, puis il se dit... La voiture est à vendre pour $1. Pour $1, on se doute qu'il y a une arnaque derrière quelque part. Et il se dit, bon, pour $1, je risque pas grand-chose, j'y vais. Et avant d'y aller, il a téléphoné, elle est toujours à vendre la voiture, et il arrive sur place et il discute avec la dame qui lui montre une belle voiture en très bon état, fonctionne bien, oui, oui, ils essayent la voiture, franchement, c'est nickel. Et le monsieur comprend pas. Vendre une belle voiture comme ça, pour $1, il y a une arnaque quelque part, et il ne sait pas où. Et c'est là que la dame va lui avouer le fond de l'histoire. Et le fond de l'histoire est le suivant. La dame dit, je viens de perdre mon mari, il n'y a pas très longtemps, et dans son testament, il a mis une clause bien particulière concernant la voiture. Tu vendras la voiture, et le prix de la voiture, tu le donneras à madame une telle. Et là, il a fait des recherches. Et il s'avère qu'elle découvre que madame Intel, c'était la maîtresse de monsieur.
Oui.
Alors elle a dit, bah, je la vends $1. Comme ça, j'aurais respecté sa volonté. Bon, je vous passe la suite. Je trouvais cette histoire intéressante parce que, bah, justement, j'aurais été à la place du monsieur, je me serais méfié. Parce que acheter une voiture à $1, on ne fait pas. Enfin bon, vous comprenez ce que je veux dire. On est quelquefois face à des situations où on a crainte de se faire avoir. On ne sait pas comment juger les choses. On n'aime pas trop juger, mais on le fait quand même. Et si on revient à la pensée biblique, je dois avouer que juger fait partie de ces choses ou ces réflexions qui nous amènent à avoir des versets qui nous semblent complètement contradictoires. On nous appelle à ne pas juger, on nous appelle à juger. On nous appelle à prendre position, à aller jusqu'au bout des choses en ce qui concerne le jugement, et on nous appelle aussi à lever le pied par rapport à ce verbe. Et pourtant, et Paul va le dire en particulier aussi à Timothée, la Bible, elle est digne de confiance, la Bible, elle est inspirée par Dieu, qui a inspiré des écrivains pour notre enseignement, cette Bible est un tout, et il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit à Timothée. La Bible, elle a été écrite pour notre enseignement, pour nous permettre de connaître Dieu, de mieux le connaître, de mieux le servir. Et Paul va nous dire que c'est aussi dans l'objectif de grandir dans la maturité. Alors, il y a un auteur, on ne sait pas qui c'est, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, qui va nous rappeler cela aussi, que notre objectif, c'est plus de boire du petit lait, mais c'est de manger de la viande pour devenir mature. Mais tout le monde sait ce que ça veut dire mature. En fait, moi, je me suis toujours trompé. Moi, pour moi, mature, ça voulait dire connaître des choses, être spirituellement bien investi, etc. Et le texte d'Hébreux 5 va nous rappeler la base. Il va dire, mais la vraie maturité, c'est de savoir faire la différence entre le bien et le mal. J'avais toujours imaginé, quand j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 14 ans, j'avais toujours imaginé que c'était facile. Il y avait, il ne faut pas mentir, il ne faut pas tuer, il y avait le décalogue, enfin, etc. Et plus j'avance avec le Seigneur, plus je me dis que les choses ne sont pas si simples. Parlons que du mensonge, je l'avais déjà évoqué à un certain moment. Avant, je savais qu'il y avait la vérité et le mensonge, et j'ai dû apprendre plus tard qu'il y avait des demi-vérités. Et dans beaucoup de domaines, c'est comme ça. Alors, quand on lit un verset biblique qui va nous parler notamment de juger, entre autres, hein, pour tous les autres sujets, c'est la même chose, ce qu'on nous enseigne et ce qu'on enseigne aussi en permanence, c'est de bien faire attention au contexte, et donc au contexte dans le texte même, et voir aussi le contexte culturel et géographique de l'époque, à quelle époque ce verset a été écrit et dans quel contexte. Malgré tout, comme je le disais tout à l'heure, les choses ne sont pas si évidentes. Parce qu'il y a à l'intérieur de la Bible aussi des choses qui sont difficiles à comprendre, que Dieu a gardées comme étant un secret. Il nous a prévenu que, mais il ne nous a pas demandé de les comprendre. Moi, je vois des théologiens aujourd'hui qui se bagarrent depuis très très longtemps sur différents sujets. Alors, un pense ceci, l'autre pense cela sur le même sujet. Et on n'arrive pas à les mettre d'accord, et finalement ils ont fait des groupes religieux différents. Moi je me suis souvent dit que si c'était comme ça, c'est que le Seigneur ne voulait pas en dire plus, et qu'on saura à temps voulu ce qui sera nécessaire de pouvoir comprendre. Et donc s'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans la Bible, sachez aussi que même les plus érudits diront, qui sont honnêtes, diront aussi la même chose. Il y a des secrets de Dieu dans la Bible qui sont évoqués, mais que nous ne pouvons pas saisir. Donc, voilà, c'est ainsi qu'il nous faut aussi le prendre. Malgré tout, il ne faut pas passer à côté des essentiels de la bonne nouvelle, de l'Évangile, et de l'objectif de Dieu au travers de sa parole, donc de pouvoir grandir avec lui et de rejeter autant que c'est possible le péché qui essaie de nous envahir. On va parler un peu des juges, et après je viendrai au verbe juger. Le livre des juges, c'est un livre qui raconte un moment assez difficile, qui aurait dû être le plus beau moment pour le peuple d'Israël. Le livre des juges, il va commencer à partir de quand? Bon, j'ai dit que je vais aller vous questionner, hein. Vous n'allez pas vous endormir, hein. C'était après qui? C'était avant moi, oui, c'est sûr. Non, mais c'est pour mettre dans le contexte. Hein. Alors, le livre des juges, il va commencer en particulier... J'ai pas entendu.
C'est jusqu'à Samuel.
Oui. Alors le livre des juges, en fait, il va démarrer, enfin l'histoire du peuple à l'époque des juges, il va commencer en particulier avec l'arrivée à l'intérieur donc de ce fameux pays promis. Et j'avais dit à ce moment-là qu'il y a une chose qui est assez terrible, c'est que le peuple qui était sorti de l'esclavage d'Égypte, qui avait traversé le désert, ils sont arrivés dans le pays promis où normalement tout devait aller, et effectivement tout allait bien. Tout allait tellement bien qu'on a oublié Dieu. Et voilà ce livre des juges qui va intervenir, où on va dire que, en fait, Dieu a été mis de côté, chacun faisait ce qu'il pensait bon, etc., etc. Et puis, la fin des juges, ce sera ce moment particulier où le peuple va demander un roi, et ça sera donc... le début de la royauté de Saül et de la royauté proprement dite, et donc c'était pendant le ministère de Samuel. D'accord ? Une période longue, difficile, mais une période où on a oublié Dieu. Et c'est ça qui est terrible. Je le disais aussi la dernière fois que je me rendais compte qu'à partir du moment où notre situation va un peu mieux dans notre vie, c'est souvent ce qu'on fait. On oublie Dieu, on s'installe. Et une fois qu'on est installé, c'est fini. D'accord ? Quelqu'un dira, c'est peut-être comme le mariage. Avant le mariage, qu'est-ce qu'on ne fait pas pour l'autre ? Une fois qu'on est marié, on est installé. Je ferme la parenthèse.
Il y a des exceptions quand même.
Je vous discuterai après entre vous. Vous avez le repas pour pouvoir discuter et mettre des choses au point. Vu ce qu'il a dit François. Alors, quel était le rôle des juges à cette époque-là? Il y en a eu quelques-uns. Certains en comptent que 12 parce que c'est un bon chiffre, n'est-ce pas? La plupart du temps, on compte 15 juges, et dans ces juges, donc je ne vais pas les reciter, mais les derniers des juges sont mieux connus, dont Samson, Élie, Samuel. Ce sont deux, trois juges qu'on connaît bien. On ne va pas oublier Déborah non plus, qui est intervenue. On peut parler de Gédéon aussi. Mais quel était leur rôle ? En fait, leur rôle était surtout un rôle de gestion. Il fallait gérer les affaires du pays, gérer les affaires entre les personnes. Ils n'avaient pas toujours un rôle comme celui de Samuel. Ils n'avaient pas toujours un rôle qui était profondément spirituel, si je peux le dire ainsi. Samuel, il cumulait plusieurs fonctions, puisque il était aussi prophète, sacrificateur, etc., etc. Le rôle, donc, c'était la gestion des questions civiles. Et ce qui est assez intéressant, c'est de se souvenir que ce rôle de juge n'est pas arrivé seulement à cette période des juges, mais déjà à l'intérieur du désert, dans un moment très particulier. Alors, à partir de quand, à votre avis ? À partir de quand on a nommé des juges ? On ne les appelait pas comme ça, mais ils avaient le rôle.
Quand Moïse a nommé des chefs de tribu pour chaque femme,
voilà.
Des chefs pour chaque tribu.
Exact, enfin, voilà.
Des responsables.
Donc c'est le jour où Jéthro, son beau-père, est venu le rencontrer et qu'il lui a dit « Écoute, tu t'épuises à la tâche, tu devrais pas faire comme ça et il faut que tu nommes des chefs de 1000, des chefs de 100, etc. etc. » Et c'est là où il y a eu la première notion de juge et le rôle du juge qui a commencé à s'installer au niveau donc du peuple hébreu. D'accord ? Il avait été conseillé aussi à Moïse si les juges n'arrivaient pas à savoir comment faire avec certaines questions, alors que ces questions devaient remonter jusqu'à lui, et lui ne devait traiter que les choses difficiles. Et on va voir de la même manière dans les moments dans l'exercice des juges, dans ce livre des juges, on va voir des personnages qui vont aussi réagir de la même manière. On va traiter les choses courantes, les choses un peu plus difficiles, on va les monter à l'étage. Alors pour nous aussi, on a tout un système de juges qui est en place, n'est-ce pas ? Et chaque fois qu'on parle de juge, on a une notion un peu négative qui va arriver, parce que juge veut dire qu'on s'est fait arrêter, qu'on a fait quelque chose de mal, qu'on est passé par la police et qu'on va être contraint à payer une faute qu'on a dû faire quelque part. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à... Il n'y a personne qui est juge parmi nous, non ? Peut-être quelqu'un a été juré. Tu l'as été ?
Oui, à trois reprises.
À trois reprises ? Mais c'était sur la même période.
Oui.
Oui, c'est ça. Donc, je fais une parenthèse, je voulais le dire après, mais il faut savoir que nous avons tous la possibilité, un jour, de devenir juge. Parce qu'en fait, pour être juge, bon, il y a certains critères, hein, n'est-ce pas ? Il ne faut pas sortir de l'hôpital psychiatrique, etc., ce qu'on peut tout à fait comprendre. Mais à côté de cela, donc, on est tiré au sort. Et quand on est tiré au sort, le sort peut tomber sur nous. C'est tombé sur moi une fois. Et j'ai eu le privilège énorme qu'il n'y avait rien à traiter à ce moment-là. Et donc, c'était sur une période de 3 ans. Et on a dit, sur 3 ans, vous pouvez être appelé pour être juré. C'est arrivé à un de mes gendres qui est en Angleterre, et lui, il a dit que c'était assez épuisant. Il a dit, il y a même des nuits où c'est difficile à dormir parce que tu ne sais pas trop ce que tu dois dire, etc. Mais c'est le système judiciaire qui existe encore aujourd'hui, et il existe pour une bonne chose, pour essayer de faire régner l'ordre à l'intérieur du pays, et ça peut se comprendre. Il y avait aussi des villes de refuge qui existaient à la demande de Dieu, qui existaient en Israël. Elles servaient quoi, ces villes de refuge ?
À protéger les criminels aussi.
Oui, mais pas n'importe quel criminel.
Oui.
Lesquels ?
Ceux qui avaient tué par maladresse, on va dire.
Oui, exactement. Exactement. C'est pas le terme exact, mais c'est tout à fait ça. C'est vrai que quelqu'un qui avait tué involontairement, hein, maladresse, comme tu as dit, il y a eu un accident, ou enfin, etc. Dieu avait demandé à ce qu'il y ait sur Israël un certain nombre de ces villes. Et il était dit que la personne pouvait s'y réfugier, parce qu'à l'époque, il y avait aussi ce qu'on appelait des vengeurs de sang. D'accord ? Et les vengeurs de sang, t'avais tué, ben voilà, la loi du talion s'appliquait, t'avais tué, tu vas être mort. Ben, c'est tout, hein, c'était pas compliqué. Si cette personne-là avait la possibilité, parce qu'elle n'avait pas fait exprès d'être dans cette situation, si elle pouvait rejoindre une ville de refuge, alors elle devait y rester. Et vous savez quel était le terme quand ça se terminait, ce moment où elle devait rester à l'intérieur de la ville de refuge? J'entends pas très bien. Alors, pas, oui, il y avait jusqu'à sa mort, mais c'était aussi, il y avait une autre possibilité, c'était jusqu'à la mort du sacrificateur qui était en service sur place. D'accord ? C'était les deux conditions. Bon, à sa mort, c'était fini, quoi. C'est clair, mais c'est vrai. Donc, Dieu avait institué cela. Nous, on aurait dit présomption d'innocence, et puis en fait, etc. Bon, il y a tout un circuit qui peut se passer à ce niveau-là. Mais Dieu avait prévu ça, donc pour être protégé du vengeur de sang, on pouvait se retrouver dans les villes de refuge. D'accord ? Voilà, donc ça c'est ce qui concerne un peu le jugement dans la globalité. On va peut-être lire quelques versets, pour venir les choses un petit peu plus compliquées peut-être. Alors, on a lu tout à l'heure 1 Corinthiens 2, je ne vais pas le rappeler. J'aimerais lire Jacques 4, versets 11 et 12, donc on ne va pas les afficher. J'ai pas fait de PowerPoint. Oh, il a une flemme, hein, Gilles François, c'est pas possible. Hein. Alors, je vous propose donc de chercher Ésaïe 33, verset 2, où il est dit, un verset que nous connaissons, peut-être pas la référence, où il est dit « Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. » Matthieu 10, 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Romains 14, verset 4, « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de la fermer. » Jacques 5, verset 9, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. » Matthieu 18, je ne vais pas lire tout le texte, mais je vais vous le rappeler quand même, parce que ce passage de Matthieu 18 est très important pour la vie d'Église. « Si ton frère a péché, va et reprends-le. S'il n'écoute pas, prends deux témoins avec toi. S'il n'écoute pas encore, vois les anciens. » Jusqu'au moment où il est dit, « S'il ne veut toujours pas écouter l'Église, qu'on le chasse de l'Église. » D'accord. Il y a aussi ce passage, mais je ne vais pas le lire complètement, de 2 Rois 24, pardon. Et bon, je vous le laisse comme une référence, vous le lirez vous-même. Alors justement, à ce propos, si vous voulez prendre des notes, je vous ai fait un petit papier là, et il y a juste des questions dedans.
Mais qu'est-ce qu'il y a, la flemme ?
Et il parlait du jugement de Dieu aussi. Tout cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel. Il voulait éloigner Juda de lui à cause de tous les péchés commis par Manassé et à cause du sang innocent que Manassé avait versé et dont il avait rempli Jérusalem. L'Éternel ne voulut pas pardonner. C'est aussi une phrase qui est hyper violente. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. On pourrait traduire par « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, n'est-ce pas ?» Jugez. Nous avons tous, ou nous sommes tous tombés à un moment ou à un autre, dans des situations difficiles, où on a porté un jugement sur les autres. J'ai une expérience assez difficile, j'habite dans un immeuble, et dans l'immeuble juste en face de ma porte palière, il y a aussi un autre appartement donc, où il y a un monsieur assez âgé qui vit là. Et le monsieur assez âgé, il m'a toujours fait de la peine. Pour quelle raison? Parce que c'est le monsieur hyper discret. On ne savait jamais s'il était là. Et je me suis dit, un jour, ça sera écrit dans les médias, il est mort et ses voisins s'en sont même pas rendus compte. Mais on ne le voyait jamais. Je le croisais par hasard le soir assez tard, il faisait sa petite marche dans le couloir. Sans plus, mais c'était lui. Et puis, le monsieur est arrivé ce qui devait arriver. Il est resté 3 jours sur son lit. C'est les pompiers qui ont dû aller le chercher par la fenêtre, n'est-ce pas? Et là, on l'a emmené après à l'hôpital, etc., etc. Et là, l'appartement a été racheté. Et maintenant, j'ai une famille qui vient d'arriver. Et cette famille, je sais comment ils sont là. Je n'ai aucun problème. Les voisins sont pleins, en haut, à côté, en bas. Et moi aussi. Et une famille, j'ai vu pendant longtemps avec une dame avec 3 enfants. Et on découvre qu'en fait, elle a 4 enfants. Et puis, je vous passe les détails. Les enfants jouent jusqu'à 4h du matin sur Internet. Et on entend tout. Hein, alors des fois c'est en français, des fois c'est en étranger, etc. On entend hurler, on entend pleurer, on entend crier, etc. Mais c'est quelque chose qui est terrible. Et jusqu'au moment où j'ai quand même prévenu le propriétaire en disant bah, « Écoutez, tous les voisins se plaignent, on a vu avec le syndic et j'essaye de parler avec eux, mais il n'y a pas moyen. » Et ils vivent la nuit, quoi. Donc normalement, il y a des règles à respecter. Bon, 22h30, 23h, je vais encore bien, mais à 4h du matin, non merci, c'est fini. Hein. Et comme en plus, on a une chambre où il y a juste un mur de plâtre qui nous sépare. Donc, j'entends ce à quoi ils jouent. D'accord, je ne sais pas ce que c'est, mais... Et là, en prévenant le propriétaire a dit, ben, écoutez, ça fait plusieurs fois que j'essaie de parler avec lui, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une discussion à 3. Et donc, on a une discussion à 3. Et c'est là que je découvre plein de choses. Donc, notamment, j'avais appris qu'ils étaient roumains d'origine, et le monsieur a osé dire au propriétaire que si je me plaignais du bruit, c'est parce que je suis vieux.
Oula.
Parce que les vieux, ils supportent pas le bruit. Et en plus, je suis raciste. Ah bah, au moins, c'était clair. J'étais très content, et je crois que le Seigneur a de l'humour, j'étais très content. Alors, de savoir que j'étais vieux, bon, bah, ça, je le sais, bon. Mais j'étais très content de savoir qu'ils étaient roumains. Parce que quand on a eu la confrontation, c'est là que je leur ai dit très gentiment que j'ai des petits-enfants qui sont roumains. Et qu'à ce niveau-là, j'ai pas vraiment de problème. J'ai pas pensé lui dire que j'ai une belle-fille qui m'appelle papa. Et c'est pas papa parce qu'elle traduit en roumain, mais c'est parce qu'on a une certaine affection l'un envers l'autre. Et là, le monsieur a commencé à aller un petit peu plus loin et à dire qu'il a en fait 4 enfants de 11 à 15 ans. Donc c'est pas la période la plus facile, que lui ne les supporte plus, que son épouse travaille aussi et qu'elle ne les supporte plus. Et la seule chose qu'il a osé me demander, parce qu'il a dit, vous savez, les enfants c'est difficile, monsieur, je suis désolé, j'en ai eu 8, mes voisins ne se sont jamais plaints. D'accord? Et mon épouse gardait 3 enfants encore à côté, n'est-ce pas? Alors, la conversation s'est terminée par, écoutez monsieur... vous ne pourriez pas venir faire quelque chose avec mes enfants parce que j'en peux plus. J'ai dépensé 10 000 euros de PS5 et de jeux et d'écran, etc. pour essayer d'avoir la paix et je ne peux même pas dormir moi-même. J'étais considéré comme étant le vieux raciste du coin. Et là, c'était un appel au secours. Est-ce que vous ne pouvez pas venir nous aider? Ça m'a fait doublement mal au cœur. Je lui ai dit, c'est vos enfants, moi je ne peux pas faire grand-chose. Moi, je discute avec vos enfants dans le couloir, j'ai aucun problème. Mais c'est terrible de voir de ce genre de situation, des parents qui sont complètement dépassés, complètement, et qui disent simplement, c'est aux autres de s'en occuper, quoi. Et ils vous jugent comme ça, de but en blanc. Alors, une de mes filles à qui j'en ai parlé m'a dit, je crois, papa, que tu l'as pas digéré. Ah bah non, je ne l'ai pas digéré. Je ne l'ai pas digéré. Alors, plusieurs sens du verbe juger, parce que si je continue à discuter comme ça, à 3h de l'après-midi, on y est encore. Il y a le sens de juger dans le sens de condamner ou de punir. Et c'est souvent ce qu'on fait. On va souvent juger les autres, alors on parle de délit de faciès, de racisme, de ségrégation, qui ont quelquefois amené à la prison, à l'esclavage, voire des fois à la mort. On parle de jugement parce qu'il y a des différences au niveau du langage, de l'accent, de la taille, des performances, de niveau social, de responsabilité, de diversité, de clan, de culture... de classements qui ont provoqué du harcèlement, jalousie, bataille de rue, où certains s'affichent même comme étant des justiciers. C'est ce qu'on voit de plus en plus. Oui, souvent on juge selon les apparences, et c'est le Seigneur qui va nous rappeler qu'on lui ne fait pas ça, que nous ne devrions pas le faire. C'est 1 Samuel 16, verset 7 qui dit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » C'est un proverbe qui dit « La critique est facile, mais l'art est difficile. » Jésus dira dans Matthieu 7 « Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. » Je vois souvent, je sais, hein, je veux culpabiliser personne, je pense que je suis dans le même cas, donc voilà, c'est ainsi. Mais je vois des gens qui, dans les églises, passent leur temps à essayer d'analyser les autres et à venir voir le pasteur en disant « Pasteur, vous avez vu celui-là, il a péché comme ci, il a péché comme ça. » Ça m'énerve, oh, pardon, mais ça m'énerve quand même. Et je me souviens de l'exemple de cette femme qui avait une quarantaine d'années et qui passait son temps à analyser tous les gens de l'église. Et je me dis « Mais c'est pas possible. Comment on peut faire pour en arriver là, comme si elle était parfaite, quoi ?» Jusqu'au jour où elle est venue demander pardon parce qu'elle avait péché sexuellement avec un homme qui était marié. Et elle a trouvé une excuse. Et c'était ça, moi, qui m'a encore le plus tué. C'est qu'il a dit, elle a dit, le jour-là, c'était pas moi, c'est Satan qui l'a fait. C'est véridique. C'est terrible, hein ? On juge les autres. Et nous ? Il y a un autre sens du verbe juger, c'est dans le sens de lutter, ou d'aider à lutter contre le mal, et pour nous donc contre le péché. Et je pense que j'oserais dire que c'est le principe même de la sauvegarde de la vie spirituelle personnelle et de la vie d'église. Et je pense quand on voit notamment ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira, et il est dit qu'Ananias et Saphira sont morts à cause d'un mensonge, mais il est dit qu'après... Il y a eu un regain de spiritualité à l'intérieur de l'Église après cette double mort. Et je pense que c'est ce à quoi le Seigneur doit nous appeler, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, c'est aussi à pouvoir dénoncer le péché. Et il y a aussi une manière de le dénoncer, le péché, n'est-ce pas ? Nous, quand on a vu quelqu'un qui a péché, on va tout de suite le dire à quelqu'un d'autre. Hein. « T'as vu ce qu'il a fait ?» Et je t'assure, hein, c'est vrai, parce que la caméra, etc. Alors que le texte de Matthieu nous dit, si ton frère a péché, reprends-le. Donc tu vas déjà en discuter avec lui directement, et quand tu vas en discuter, tu vas déjà essayer de voir si ce n'est pas une interprétation personnelle. Parce que nous, on est souvent coincés à ce niveau-là. On interprète ce qu'on croit voir. Et quand on va chercher la vérité un petit peu plus loin, on va se rendre compte qu'en fait, on était très très loin de la réalité. Donc, essaye d'abord de savoir quel était le fond de l'affaire. Essaye de le faire avec amour, avec humilité, en sachant que tu n'es pas meilleur que lui. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas meilleur que lui que tu n'as pas le droit de le faire non plus. Tu attends de lui qu'il fasse la même chose. Écoute François, là, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Et seulement après qu'on va monter l'échelon plus haut. Et l'échelon plus haut, c'est, je vais prendre deux témoins, on va discuter à quatre. Et puis après, enfin, etc. D'accord ? C'est souvent là que nous, on est rentrés dans un autre système de la médisance et de la calomnie. On a un exemple aussi qui arrive très souvent dans la vie. Un homme qui surprend sa femme dans une grande accolade bien serrée avec un très bel homme inconnu. Et le brave mari a suspicion, tension, bagarre. On est quasiment proche de la rupture. Et ça, sous mes yeux. Et madame venait juste de retrouver son frère porté disparu depuis bien des années. Et elle n'osait pas en parler à qui que ce soit, vu la séparation. On peut se tromper. Et puis, juger, c'est aussi dans le sens positif. Dans le sens positif de décider, d'examiner ou de préférer. Je juge que c'est la meilleure solution pour moi ou pour toi, pour nous. Il y a la justice divine. Dieu est le seul juste juge. Et la parole de Dieu va nous parler du jugement dernier. Si vous parlez avec un juif, le juif va vous parler de deux choses importantes pour lui. C'est la venue du Messie qui n'est pas encore arrivé et il va vous parler du dernier jour, du jugement dernier. Ça lui tient beaucoup à cœur. Et je l'ai déjà dit, Mais ça, c'est très important pour eux, et c'est pourquoi ils se font enterrer, notamment sur le mont des Oliviers, ou au pied du mont des Oliviers, parce que le jour de la venue du Messie, à ce moment-là, c'est eux qui seront là pour juger les nations. D'accord ? Donc si vous voulez 2 mètres carrés de terre à cet endroit là-bas, sortez les dollars, hein ? Ça coûte cher. Vu l'heure, j'aimerais apporter seulement 2 autres éléments qui sont importants. C'est de rappeler que la mort de Christ, elle est mise en place parce qu'un jugement a déjà eu lieu. Ésaïe 53, que je ne vais pas relire, va nous dire « Le châtiment que nous devions avoir est retombé sur lui. » Je l'oublie trop fréquemment, surtout quand je pêche et que je demande pardon, parce que c'est tellement simple de demander pardon à Dieu. « Seigneur, pardonne-moi. » On ne se rend pas compte, ça a coûté cher. Ça a coûté cher. Et puis, je parlais donc du jugement dernier. Juste quelques points de conclusion. Attention, ce que nous ne devons pas faire, et vous pouvez en ajouter, vous pouvez venir me voir ou m'écrire, il n'y a pas de problème, je pense que ce n'est pas complet. 1. Ce que nous ne devons pas faire, c'est juger selon l'apparence extérieure. 2. Juger les motifs qui font agir nos frères, car Dieu seul connaît les desseins du cœur, 1 Corinthiens 4, etc. Nous ne devons pas juger ceux qui ont des scrupules à propos de ce qui est en soi, ni bien, ni mal. Romains 14. Bah oui, il y a des choses qui sont pas... Il y a des choses qui sont péchées, il y en a qui ne le sont pas, puis il y en a qui sont neutres. Hein ? Manger... tu manges du boudin ? Oh, c'est pas biblique ! Alors, Yann le dit, tu fais ce que tu veux, n'est-ce pas ? Hein ? Tu fais ce que... Il a eu peur, là. Il a eu peur.
On va le capturer.
Je vais te la purée, voilà. Attention, quand nous jugeons le service ou le ministère d'un autre chrétien, toujours en Corinthiens 4 qui va rappeler ça, attention de ne pas juger donc les autres en disant des méchantes choses contre notre prochain, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, nous ne devons pas surtout condamner sans explication préalable et sans possibilité de pardon, d'accord ? Et ça, je dois toujours avoir ça en tête. Quand je parle de péché avec quelqu'un d'autre, c'est que je dois toujours, comme le Seigneur, lui donner la porte de sortie, et la porte de sortie, c'est le pardon. D'accord ? Alors, la Bible nous demande de juger. Il y a une chose qui est très intéressante, mentionnée dans 1 Corinthiens 6, c'est que si on a un différend avec un autre chrétien, on ne devrait pas aller en cour civile. On devrait régler ça entre frères de manière spirituelle à l'intérieur de l'Église. Pas toujours évident. Qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est vrai qu'il y a des cas, il y a des faits qui sont terriblement répréhensibles par la loi. Est-ce que je le couvre ? Est-ce que je ne le couvre pas ? L'affaire Koumarianos, dont vous avez entendu parler, je suppose comme moi, l'affaire Koumarianos qui a été mise en exergue le mois dernier, d'un frère qui a eu des relations avec jusqu'à des mineurs. Là, on se dit, voilà, je ne peux pas laisser l'affaire comme ça. Quoi. Les responsables, les croyants sont responsables de juger si ce qu'ils devraient enseigner est conforme à la parole de Dieu. Alors, quand vous entendez ce que vous entendez, ce que je vous dis là ce matin, c'est aussi à vous de pouvoir voir si ce que je dis, c'est conforme à la parole de Dieu ou pas. J'ai peut-être dit des bêtises. Et je serais très très content que vous veniez me voir à la manière des Béréens dans Actes 17. Les chrétiens doivent juger si quelqu'un est né de nouveau. Alors ça aujourd'hui, il y en a qui prennent ça avec des pincettes. Ah ben oui, ça c'est l'affaire de chacun, il règle ça avec Dieu, etc. Moi je dis qu'il faut être aussi assez clair les uns avec les autres. Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur ? Parce que si tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, je vais prêcher l'évangile. Si tu as donné ta vie au Seigneur, on va passer à autre chose. On va grandir ensemble. Je pense que ce n'est pas un jugement condamnable que de poser ce genre de questions. Je pense que c'est très, une chose très bonne et intéressante pour savoir à qui j'ai affaire et comment on évolue aussi ensemble. Les croyants d'une église locale doivent exercer un jugement pour connaître ceux qui ont des qualifications requises pour servir comme ancien, comme diacre à l'intérieur de l'Église. Et c'est Timothée qui le dit. Timothée dit, tu ne vas pas prendre seulement ton gendre, ton beau-frère, ton, etc., ta belle-sœur, ou quelqu'un de la famille parce que tu les connais, mais juger est-ce qu'ils ont les dons pour exercer ce ministère. Et c'est à nous de le faire à l'intérieur de l'Église. Les chrétiens doivent exercer un jugement vis-à-vis de ceux qui vivent dans le désordre, ceux qui sont abattus, ceux qui sont faibles, ceux qui sont désobéissants, ceux qui causent des divisions. Chaque cas doit être traité selon les instructions de la parole de Dieu. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui arrive assez fréquemment. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu l'enlèves de tes amis. Voilà. Si quelqu'un te fait de la peine, si quelqu'un te... Si toi, tu veux être heureux, tu les écartes. Non. On doit essayer de voir ensemble comment on peut faire avancer les choses. L'Église locale est responsable de juger certains péchés. Et comme on disait dans, tout à l'heure, donc, dans Matthieu 18, et de retrancher de la communion ceux qui sont coupables. C'est ça qu'il faut penser aussi, qu'une personne, si elle ne veut pas se repentir, il ne faut pas poser un déni dessus, il ne faut pas le couvrir, il faut aller jusqu'au bout des choses comme le Seigneur le demande, et ça, c'est jamais facile. Chaque chrétien est responsable de se juger lui-même, afin de ne pas attirer sur lui le jugement du Seigneur. Ça partait de quel texte, ça? Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu plus d'une fois. Je vous ai perdu là. Pardon?
Je dis non, tu nous as perdu. Ah. On réfléchit pour te répondre.
Alors, c'est le passage de 1 Corinthiens 11. Quand on parle de la Sainte Seine, où il est dit attention de ne pas prendre la Sainte Seine indignement, etc. D'accord? La question qui reste, est-ce à nous de juger les actions qui se passent dans le monde? On est dans un monde qui est complètement fou aujourd'hui, et on a un homme assez célèbre qui a fait des grandes déclarations. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus que des hommes et des femmes. Vous voyez pas de qui je parle. Hein. Personne n'a entendu cela. Hein. C'est vrai que j'entends beaucoup de chrétiens qui réagissent. Et qui disent, ouais, il se passe ceci dans le monde, il se passe cela dans le monde, etc. On ne peut pas imposer aux non-chrétiens des choses qui sont de la parole de Dieu. Et je pense que c'est vrai aussi à l'intérieur même des familles chrétiennes. Je ne peux pas imposer à mes enfants qui ne sont pas chrétiens de pouvoir respecter la Bible au pied de la lettre s'ils n'ont pas décidé de marcher avec le Seigneur. Et pourtant, c'est une tentation qu'on a. C'est de mettre une étiquette dès qu'ils sont nés. Madame est chrétienne, monsieur est chrétien, on a un enfant, paf, il est chrétien de... Non, 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 non. Il est non-chrétien, il va vivre avec les lois non-chrétiennes, nous, on va lui donner une éducation, et puis on va prier pour qu'il se convertisse, et là, on lui dira, ou là, tu as péché par rapport à la parole de Dieu. Vous voyez la nuance? C'est pas toujours facile. Et c'est vrai que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, avec une montée de plus en plus grande de l'humanisme, du wokisme, si vous avez déjà entendu parler de ça, mais aussi du spiritisme qui se vend à tout va aujourd'hui, et toutes les spiritualités des athées, moi ça me fait rigoler quand les athées disent « Oh Dieu, j'en veux pas, ça n'existe pas, enfin, etc. » Mais quand on voit toutes les spiritualités qu'ils peuvent avoir, moi je deviens fou. Hein ? La sylvothérapie, ça vous dit quelque chose ?
C'est avec les arbres.
Ils tiennent les arbres pour recevoir de l'énergie, de la nature, enfin, etc. Oh, maman, moi les arbres, je les coupais, moi, puis je faisais du feu. C'est quand même fou, ça. C'est quand même fou. Ils se disent que nous, on est complètement décalés parce que la spiritualité, ça n'a rien. Mais qu'est-ce qu'ils font? Enfin, moi, je sais pas. Hein. Oh, je suis en train de juger, là. J'ai lu une prière qui m'a touché et qui est très simple et qui dit, pour terminer, « Seigneur, aide-nous à voir les autres avec tes yeux, pleins de compassion et d'amour, que nous puissions être des sources de soutien et de compréhension plutôt que de jugement. » C'est cela, Père, notre prière commune. Heureusement que toi, tu ne juges pas. Tu ne nous juges pas comme nous jugeons les autres. Seigneur, nous savons que d'origine, nous sommes condamnés par le péché. Mais toi, tu as donné Christ pour pouvoir nous pardonner, nous purifier de tout péché, et nous donner la possibilité d'être appelés tes enfants et aussi de pouvoir recevoir la vie éternelle. Nous te remercions, Père, parce que cette vie sur cette terre, notre marche avec toi, n'est jamais évidente. Et que notamment avec ce verbe juger, c'est toujours compliqué à l'intérieur de nos vies. Seigneur, aide-nous à savoir comment faire au jour le jour, à ne pas regarder en critiquant les autres en permanence, mais en nous regardant nous-mêmes dans le miroir de ta parole, pour voir ce que nous sommes, qui nous sommes réellement, ce que nous faisons, et ce que toi tu condamnes à l'intérieur de nos vies. Seigneur, permets qu'ainsi nous puissions grandir dans la maturité spirituelle. Et qu'ainsi, Seigneur, nous regardions les autres comme des frères qui peuvent nous reprendre, des frères ou des sœurs qui peuvent nous reprendre et ainsi nous aider à grandir. Que nous puissions aussi savoir que nous, dans toute humilité, nous puissions nous reprendre les uns les autres. Parce que, Seigneur, tu aimes ton Église qui grandit dans ce sujet bien particulier du jugement et aussi d'extirper de nous le péché. Amen.